passer la parole à Nathalie Brion-Ranoux, que je vais présenter rapidement avant qu'elle ne s'installe et prenne place. Donc Nathalie Brion-Ranoux est maître de conférences à l'Université Rennes 2. Ses activités de recherche et d'enseignement se concentrent autour de la poésie, sa didactisation, évidemment, la réception littéraire, la lecture numérique et les expressions multimodales. Elle a soutenu en 2010 sa thèse intitulée « Le lecteur et son poème, lire en poésie, expérience littéraire et enjeux pour l'enseignement du français au lycée ». Depuis 2016, elle a ouvert un séminaire, enseigné le théâtre et la poésie aujourd'hui. Elle a également co-dirigé le numéro 33 de la revue Diptyque, intitulé « Être et devenir lecteur de poèmes, de la poésie patrimoniale au numérique », ainsi que publié de nombreux articles sur l'enseignement de la poésie, sur la lecture performée, sur le corps du lecteur de poésie ou sur la poésie numérique. Il y aurait beaucoup d'autres références et d'activités à mentionner au sujet de Nathalie Brion-Ranoux pour rendre compte de son engagement important autour de l'enseignement de la poésie, mais je préfère lui donner directement la parole afin que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même directement.
Merci beaucoup. Merci. Bien, merci à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation très chaleureuse, très motivante aussi. Merci d'être si nombreux et attentifs aussi à ces questions qui, évidemment, vous l'avez compris, me tiennent beaucoup à cœur. Et donc, j'ai intitulé mon intervention aujourd'hui « L'activité créative du lecteur de poèmes ». Vous allez en comprendre la raison bien vite. D'abord parce que l'histoire et les problématiques qui relient la poésie à l'école sont des plus anciennes en didactique de la littérature. On pourrait consulter André Chervel, qui a retrouvé des traces d'enseignement de la poésie aux confins de l'histoire scolaire. Et cela s'explique de deux manières. La notion de poésie recouvre un corpus mouvant. Et, par exemple, le théâtre de Racine, au XVIIe, faisait partie du corpus poétique. D'autre part, la mémorisation, qui est une des pratiques pédagogiques les plus anciennes, s'est appliquée systématiquement au corpus versifié, par conséquent, à la poésie, et ce, jusqu'à nos jours. Question de corpus et de pratiques pédagogiques constituent donc deux des entrées principales pour la réflexion en didactique du poème. Quelles nouvelles œuvres enseigner et selon quelle méthode? L'espoir d'un renouvellement de cet enseignement passe volontiers par des remises en cause relevant d'une ou deux de ces deux entrées. Pourtant, si enseigner des œuvres originales et ou recourir à des pédagogies innovantes pouvait suffire à former des générations nouvelles de lecteurs de poésie, il y a longtemps que les éditeurs et les formateurs d'un commun accord le feraient savoir. Les travaux de recherche de Jean-Yves Debreuil, Michel Favriot, Serge Martin, les expérimentations de Georges Guilin, entre autres, auraient déjà perdu le caractère d'urgence, d'impérieuse nécessité qu'ils drainent depuis plus de 30 ans. Mais je voudrais aujourd'hui emprunter un troisième axe, un autre angle, en posant la question de l'activité du lecteur. Il me semble que la fracture entre les pratiques poéticides et les interventions, les meilleures du monde, peuvent y conduire, et un enseignement motivant et engageant pour les élèves ne passe pas systématiquement par la table rase du corpus ancien ou par la mise au pilori de la mémorisation. La bascule se joue ailleurs. Les chances d'accompagner de jeunes lecteurs vers plus de poésie, vers plus de sens en poésie, davantage d'émotions, d'expériences, d'événements intimes, dépendent de notre capacité à nous demander non seulement ce qui agit sur la lectrice, le lecteur, mais ce qu'il ou elle fait, ce qu'il ou elle sécrète, configure, fabrique en lisant, et comment l'enseignement peut l'aiguiller jusque-là. Pour suivre le fil de ce questionnement, je m'appuie sur quatre catégories de sources. D'une part, je cherche à comprendre les façons dont les poètes lecteurs relatent eux-mêmes leur expérience de réception poétique. Les poètes dont j'ai examiné les gestes de lecteurs sont principalement Jacotet, Stettier, Steinmetz et Dubouchet. Mais il y en a d'autres. D'autre part, je procède régulièrement à l'auto-lecture de mes propres notes de lectrice, dans une démarche auto-réflexive parente de la phénoménologie. Mais ce n'est pas exactement sur ce corpus-là que je vais travailler aujourd'hui avec vous. Ensuite, depuis la fin des années 90, je recueille des données déclaratives émanant d'apprenants en situation de lecture de poèmes, qu'il s'agisse de résultats d'enquêtes, de diagnostics ou de carnets de bord de divers formats émanant du primaire, du collège, du lycée, de l'université ou de la formation continue des enseignants. Enfin, je développe depuis 2012 le volet poésie du séminaire ETPA, enseigner le théâtre et la poésie d'aujourd'hui, conçu à Grenoble au sein de l'UMR Littéar et devenu interuniversitaire depuis 2017. Ce séminaire s'exerce à questionner l'enseignement de la poésie sous différentes facettes, en incluant au travail des chercheurs les réflexions des poètes, éditeurs, médiateurs de la poésie. En janvier dernier, par exemple, la journée d'études grenobloises portait sur les poèmes vidéo. Ce séminaire a donné lieu à deux publications papier qui ont déjà été mentionnées tout à l'heure et à, notamment à l'écoute des poèmes, enseigner des lectures créatives sous presse aux éditions Peter Lang. Alors en m'appuyant sur ces ressources, je m'apprête à partager avec vous l'état actuel de mes observations sur ce que j'appelle les gestes de lecteurs de poèmes et les perspectives qui en découlent pour un enseignement que je dirais, pour dire vite, plus créatif. Et je réserverai la redéfinition de ce terme en conclusion. Je vais donc articuler l'exposé de ce matin en deux temps. D'abord, essayer de décrire l'activité intime du lecteur de poèmes et, dans un deuxième temps, focaliser davantage l'attention sur des lectures de poèmes dans un contexte d'enseignement. Alors, Du Boucher, lecteur de Victor Hugo, et Stettier, Salastettier, lecteur de Rimbaud, j'ai pris deux échantillons, donne l'opportunité d'examiner au moins deux modalités de réception créatrice. Ses proches contemporains se sont attelés à des lectures diachroniques, telles que l'école l'envisage encore le plus souvent, ces lectures par des poètes débouchant sur des appropriations évidemment exceptionnelles. Alors je vais m'efforcer ici de mettre en valeur un des aspects et un seul de ces appropriations poétiques par auteur, aspect que je choisis pour sa singularité ainsi que pour l'inspiration didactique qu'il peut susciter. Je retiens d'abord, dans la lecture sensible de Rimbaud par le poète libanais Salastettier, l'expérience transculturelle radicale de la lecture poétique. Pour lire l'œuvre d'un poète éloigné dans le temps et l'espace, Stettier recourt à l'allégorie narrative que vous connaissez peut-être du mythe des sept dormants. Il transforme une légende en trame allégorique de décodage des imaginaires en fermant des significations. Bon, il ne faut pas que je quitte mes notes, sinon je vais dépasser le temps. Mais j'avais envie quand même de vous raconter très très vite cette légende. C'est une légende que l'on retrouve à la fois dans le pourtour méditerranéen et dans des pays celtiques, comme au nord de la Bretagne, et qui restitue l'aventure de sept pèlerins, enfin de sept personnages qui sont ensuite devenus le point de départ d'un pèlerinage, qui se sont endormis pendant 200 ans dans une caverne et qui, grâce à leur pureté de cœur, évidemment, ont survécu à ce très très long sommeil. Donc c'est une légende qui a été récupérée, entre guillemets, et par l'islam et par la chrétienté. Donc Stettier, lecteur lettré et biculturel, déjoue complètement la supposée stratégie auctoriale quand il parle de Rimbaud, le huitième dormant. Il renvoie aux oubliettes Ingarten et Umberto Eco, les blancs du texte, le lecteur implicite et le lecteur expert. Ce qui s'active en lui, c'est ce filtre éclairant, cet écran de l'imaginaire qui donne prise à une part de l'indicible de Rimbaud, son silence. Le détour narratif et mythologique auquel procède Stettier, lecteur de Rimbaud, nous montre que lire un poème, se rendre disponible à l'œuvre, s'appuie sur des préacquis culturels parfaitement hétérogènes à l'œuvre lue et que ceci, loin de générer de l'anachronisme ou des contresens farfelus, tisse un lien intime entre le lecteur et les poèmes. Cette forme d'actualisation donne sens à la lecture et élève le pouvoir interprétatif du lecteur. Alors, sur le terrain didactique, cette découverte d'un geste particulier de lecture poétique m'a autorisé une réaction d'enseignante, un jour, à l'égard d'une étudiante japonaise qui se plaignait de la vision superficielle que les Français se font des haïkus. Cette étudiante pestait contre les malentendus et notre arrogance d'occidentaux à l'égard de cette poétique si singulière. Pour répondre à son agacement, je lui ai proposé de chercher des haïkus dans l'œuvre d'Apollinaire, en lui expliquant bien sûr que le poète français n'avait jamais lu du haïku et encore moins visité le Japon. Je voulais lui montrer que ce modèle littéraire et culturel pouvait devenir non plus un objet de savoir à vénérer, mais un levier de lecture, une forme d'angle d'approche vers une œuvre énigmatique qui échappe. Autre exemple, Dubouchet lisant Victor Hugo. Lui aussi témoigne d'un travail de lecture-création tout à fait singulier. Face à l'œuvre gigantesque de son aîné, Dubouchet a collectionné des citations, des fragments, issus de toute l'étendue de l'œuvre, l'œuvre éditée, mais aussi posthume, en incluant les brouillons. Or, ce geste de cueillette n'est pas une anthologie. Il ne sert pas un dessin représentatif à la gloire de Hugo, non. Les fragments prélevés, sélectionnés, agencés, aboutissent à la réalisation d'un nouveau livre, une sorte de cut-up dont l'auteur est Dubouchet, avec les mots de Victor Hugo. Alors là sont récapitulés les volumes de prélèvement dans l'œuvre et vous voyez que, le projet de Dubouchet ne cherche pas à être représentatif de l'œuvre de Victor Hugo, mais d'offrir un nouveau texte inédit, Dubouchet, auteur, avec les mots de Victor Hugo. Et j'ai appelé cette forme littéraire le recueil à quatre mains. Quelques grands poètes lecteurs se sont exercés à des formes subtiles de copier-coller aboutissant à une œuvre unique. Je pense par exemple à l'anthologie du vers unique, qui est à peine davantage une anthologie d'ailleurs, de Georges Chéadé. Et sur le plan didactique, la transposition du recueil à quatre mains d'André Dubouchet, lecteur de Victor Hugo, a débouché sur un dispositif de lecture créative qui se diffuse actuellement progressivement en France. De très nombreux apprenants trouvent à travers cette pratique le moyen de lire de la poésie parce que l'occasion leur est offerte d'en faire quelque chose de bien à eux, une nouvelle œuvre qui résulte d'une aventure de lecture inédite et qui leur ressemble à la fois. L'altérité du poème est apprivoisée dans un geste d'appropriation valorisant, ouvert. J'ai sélectionné quelques images reprises de cette expérimentation, par exemple dans une classe de Bruno Gallis dans l'Académie de Grenoble, Verlaine, lu par des élèves en difficulté, finalement donne l'occasion de créer de véritables nouveaux recueils avec un exemple parmi d'autres d'une lectrice qui a écrit un manga à partir des fêtes galantes de Verlaine. Et là, on peut dire que c'est une élève qui a lu Verlaine et qui en a fait son miel. Autre exemple, un extrait d'un recueil à quatre mains d'une lycéenne qui reprend donc dans l'œuvre complète de Rimbaud des fragments. La même page transcrite aboutit à ceci. Il disait « Comme ça te paraîtra drôle quand je ne serai plus ce par quoi tu es passé. Quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni cette bouche sur tes yeux, parce qu'il faudra que je m'en aille très loin un jour. Je suis maître du silence. » Bon, excusez-moi, le passage au PowerPoint a décalé le mot silence. « Je suis maître du silence », c'est la phrase qui se trouve en bas de la page 16 du recueil de Clémence. Et vous avez compris que la blancheur de la page fait l'événement de son carnet à elle, le poème qu'elle a lu, la combinaison qu'elle a construite, nous offre à nous de traverser ce silence et donc réalise de manière tout à fait performative le silence de Rimbaud par Clémence. Or, je suis régulièrement interpellée par des enseignants qui me demandent si ça peut marcher avec un roman. Alors, la suggestion me laisse vraiment très mal à l'aise. D'abord parce qu'en matière de lecture littéraire, je crois que Sonia serait d'accord avec moi pour dire qu'il n'existe pas de recette qui marche ou qui ne marche pas. Enseigner la littérature, ce n'est pas redupliquer consciencieusement des dispositifs clés en main avec un service après-vente, d'une part. D'autre part, le recueil à quatre mains correspond à une expérience poétique, celle d'un grand poète contemporain, Du Bouchet. Le texte de lecteur qu'il a créé est un objet poétique. La lecture que sa lecture nous offre nous engage dans un rythme, une alinéarité, une polysémie, un plaisir de la signifiance via le matériau de la langue et des évocations sémantiques non référentielles qui relèvent de l'expérience du poème. Plaquer la démarche sur un corpus romanesque ou narratif, c'est vider le geste de sa poéticité pour aboutir à un bricolage de formes, un éclatement de morceaux, c'est de la couture un peu vaine. Et je ne vois plus dès lors très bien à quelle expérience et à quel savoir pourrait bien mener ce simple exercice. La lecture de poésie par les poètes nous permet ainsi de développer des gestes professionnels. Non en les mimant, bien sûr, mais en repérant dans leur propre démarche de création ce qui relève d'une gestuelle transposable, d'une phénoménologie partagée. Ainsi, en observant des poètes lecteurs, tout autant que des apprenants questionnant leur propre lecture poétique, je suis arrivée au constat suivant. La théorie des activités fictionnalisantes du lecteur, conçue par Gérard Langlade et Nathalie Lasselle, n'est que partiellement effective quand il s'agit de poésie. Certes, les cinq activités repérées par les théoriciens du récit agissent lors de la lecture de poèmes. Il s'agit, je les rappelle, de la concrétisation imageante, la recherche de cohérence mimétique, l'activation fantasmatique, l'impact esthétique, la construction axiologique. Ces cinq opérations, c'est évident, sont éveillées lorsque nous lisons de la poésie. Mais il faut en ajouter d'autres. Il faut ajouter, à mon avis, cinq autres catégories de gestes particulièrement actifs pour la lecture de poésie. Moi, je trouve que ce s'active de manière très, très vive en poésie. On l'a revu à l'instant avec Stettier lecteur, Du Bouchet lecteur. D'abord, l'interlecture, théorisée par Jean Belmanoël, la reconfiguration énonciative. On a bien vu que créer un recueil à quatre mains, c'est mettre son « je » dans la voix du « je » du poète. Donc, nous transformons, nous assimilons, nous réactivons une forme d'énonciation qui devient la nôtre. Moins visible dans ce que je vous ai présenté, bien que le manga, par exemple, tout à l'heure, peut servir d'illustration à cette notion, mais la narrativisation, c'est aussi une pratique du lecteur de poèmes. Un poème n'est pas forcément une histoire, mais le lecteur, quand il a du mal à faire quelque chose avec le poème, il le transforme en petit récit. C'est un geste de lecture extrêmement courant. Pas indispensable, mais courant. La transmodalité est également une grande évidence en poésie. On passe d'un poème à sa version livre d'artiste de manière complètement naturelle, ou d'un poème à de la chorégraphie, à de la danse. Les genres s'acoquinent autour du poème, avec également une spontanéité vers la mise en corps, voix, rythme, rythmique mémorisation, figuration corporelle étant sous-entendue dans cette rubrique. La nécessité d'activer alternativement et le plus possible ces 10 leviers de la lecture de poésie motive mon travail actuel de recherche en didactique. Je vais maintenant concentrer la réflexion sur l'activité créative du lecteur de poèmes en contexte scolaire à travers deux questions d'actualité, celle de l'évolution du corpus et celle des mises en voix. Alors en France, bon, ne vous inquiétez pas, c'est juste une photo, il n'y a pas de texte. En France, la question du corpus de poésie enseignée est traversée de multiples tensions. Les textes officiels, les listes d'œuvres conseillées en primaire et les auteurs imposés en terminale littéraire, ainsi qu'au concours de recrutement des enseignants, offrent une part non négligeable aux poètes de la fin du XXe et aux poètes contemporains. Roubaud, Jacotet, Césaire, Senghor et plus récemment, J'aime Sacré, Valéry Rousseau, Alban Gelé, etc. sont dans les textes. Les éditeurs, grands et surtout petits, ainsi que les médiateurs de la poésie, déploient des efforts considérables de promotion et de diffusion d'un corpus foisonnant et pluriel. Je souligne pour la seconde fois le prix des découvreurs, tout à fait remarquable, mais aussi l'abondance en France de poètes en résidence, de poètes dans les classes, etc. Et pourtant, la formation des enseignants et leurs pratiques culturelles laissent majoritairement la poésie dans les marges dans des niches, tenues par des amateurs déjà convaincus, voire des enseignants poètes eux-mêmes. Cet état de fait conduit à des discours didactiques contradictoires. D'un côté, des auteurs contemporains sont régulièrement invités, lus, performés par des élèves, et de l'autre, la majorité des pratiques de classe ordinaire nient complètement ces offres poétiques. Cette double réalité provoque un malaise parmi les chercheurs. Faut-il monter en épingle des projets exceptionnels et exemplaires qui cachent la forêt ? Ou acculturer plus globalement la totalité des établissements, des équipes et des territoires avec une mise en présence modeste, mais réelle, de poésie ? Je laisse cette question en suspens. Ayant été moi-même plutôt militante du premier point de vue, gagnée cependant aujourd'hui par un doute réel sur la pérennité des projets événementiels les plus motivants. Je me tourne résolument du côté de la lecture de poésie comme événement intime, compatible avec des pratiques de classe sans grands moyens. Il me semble que la qualité d'un dispositif didactique tient à son caractère transposable, la possibilité qu'il offre à tout profil d'enseignant de l'adapter à ses goûts et à sa propre curiosité artistique. Cette préoccupation touche directement à la question des mises en voix. Depuis le salutaire anathème porté par Jean-Pierre Siméon sur la récitation et le cahier illustré, en particulier dans la vitamine P, l'oralisation poétique a pris un essor considérable. Délestés de l'injonction de mémorisation, les élèves de la maternelle à l'université peuvent explorer des poèmes collectivement en s'appuyant sur les leviers de la voix, mais aussi du corps, des sons, de la multimodalité. Que les productions soient qualifiées de poèmes oralisés, de performances, de vidéopoèmes, la créativité des lecteurs tient à quelques paramètres toujours présents qui relèvent de la vocation même de l'activité et que je résumerai en trois questions. Le lecteur agit-il sur le texte, en s'émancipant de sa linéarité, de son exhaustivité, de sa présentation? Deuxième question, le groupe agit-il sur le texte, sur le lecteur, pardon, en ventilant l'énoncé, en imbriquant les voix, en négociant un registre, etc. Troisième question, l'auditoire agit-il sur la lecture, en s'offrant comme adresse, en réactivant la lecture, en exprimant une émotion, etc. Il me semble que si l'on peut répondre oui, au moins partiellement, à ces trois questions, nous avons de fortes chances que la mise en voix ait fait événement. Je ne dis pas que la pratique finira en photo dans la presse locale ou sur Internet. Non, non. J'escompte que ce moment de poésie qui n'est pas un spectacle, qui n'est pas le produit fini illustrant un sens prédéfini, qui n'est pas le contrôle d'application d'exercices d'élocution ou d'image de soi, j'attends de ce moment de poésie qu'il s'ancre dans une micro-révolution expérientielle, que le lecteur se sente frôlé, habité, chamboulé, piqué par quelque chose qui, du langage, a eu lieu, s'est imposé, s'est insinué en lui, presque comme par mégarde. Je me souviens, par exemple, d'une séance de lecture à voix haute d'un recueil de Camille Loisier, « Il est nuit », en classe de seconde. Chaque binôme avait pour mission d'inventer un dispositif d'oralisation et de le tester devant la classe. Beaucoup d'élèves se sont exercés à crier, chuchoter, psalmodier, slammer, assis, debout, allongés par terre, etc. Des extraits du recueil choisis plus ou moins par hasard. Le duo de garçons très discrets, qui a pourtant fait événement, a inventé ceci. Assis sur la table, en tailleur, face à face, les deux lecteurs ont entrepris de lire le début et la fin du livre en entrelaçant leurs voix sur un ton très chaleureux, comme deux amis qui se retrouvent et s'apprécient. Cette lecture expérimentale, qui ne faisait suite à aucune explication, a complètement ouvert le texte. Les auditeurs ont alors mesuré le vœu d'intimité et de contact par les mots. La question de la présence, le pouvoir performatif de la parole poétique, ont naturellement surgi dans la discussion suite aux sensations qu'avait provoquées dans l'auditoire une telle mise en voix. C'est en risquant ce dispositif tout simple que les élèves ont choisi intuitivement, que le groupe a ensuite compris que le poème de Loisier s'adresse aux frères suicidés et tente de transcender l'absence. Imaginez si on avait expliqué le texte avant, si on avait dit aux élèves « voici un recueil de poèmes qui a été écrit par une poète à l'intention de son frère suicidé. Imaginez les mises en voix qui auraient été réalisées. Remplies de pathos, emmêlées de sentimentalisme, et à côté du poème. Donc, je crois qu'aucune explication de texte méthodique, aucun dispositif programmé par l'enseignant n'aurait permis une découverte aussi profonde, une appropriation aussi sensée de l'œuvre et de sa poéticité. La nécessité, selon moi, de cultiver l'autonomie des élèves dans la conception de leur mise en voix n'est pas un gadget pédagogique. Pour cela, les élèves doivent se libérer des représentations de la récitation en fréquentant des performeurs, en visionnant des mises en espace et en voix par des poètes. Mais le but n'est pas de motiver chez eux l'imitation de ces artistes qui ne devraient être des modèles que dans le fait qu'ils ont inventé leur propre dispositif. Les élèves doivent aussi pouvoir être délivrés du devoir de bien faire, de bien dire, de répondre à une attente esthétique prédéfinie. La mise en voix devient créative quand elle maintient vive l'élan du processus, des questionnements, des doutes intrinsèques au poème. L'habileté de l'enseignant tient alors à la perception de l'interprétation qui germe dans ces mises à l'épreuve du poème par les voix, les corps, les imaginaires. Repérer ce qui, dans la tentative, peut donner lieu à rebond, injecte du sens dans la boucle poétique de l'incorporation. On peut pour cela faire rédiger des notes d'intention, mais après la séance d'expérimentation. Des carnets de bord de concepteurs, de spectateurs, des dialogues sur les réalisations des autres, etc. Quand le travail a avancé, quand l'appropriation et l'interprétation ont cheminé, les apprenants réclament volontiers une séance finale de mise en commun, où le texte est à nouveau remis en question, mais avec finalement quelques pistes. Alors, c'est par exemple ce à quoi ont abouti les étudiants de licence qui ont choisi de performer un poème d'Hélène Dorion. Alors là, tout dépend du temps qui me reste.
Là, c'est 9h40, donc nous avons un bon 10 minutes.
Oh, bah alors, on peut regarder presque toute la vidéo. Par contre, j'ai un peu de mal à voir comment je vais la déclencher. Oups, c'est pas ça qu'il me faut. Il faut que je déclenche la vidéo. Je l'avance un petit peu pour gagner. Par contre, le son. J'ai l'impression que les haut-parleurs ne sont pas allumés.
Ce n'est plus arrêter le temps que je désire, mais le mêler à mes pas. Je reviens d'où je ne suis jamais partie. Comme des balles perdues, nos paroles s'échappent, nous laissent désespérément libres. Parfois, notre vie va ainsi, s'éloigne en emportant un peu de ce que l'on est et de ce que l'on aime. Le temps pose des éternités, puis, sans rien dire, les reprend. Amour, lumière, consolation, paroles lointaines, trouées de regrets, infiniment blessées. Une route de terre, la forêt, les rives imparfaites d'un fleuve. Toute ville s'oublie. Un vent me reconduit jusqu'à toi. je murmure mon amour. Et devant moi, le paysage résonne du trouble ainsi nommé. Lentement, quelques ruines. Mon visage contre ta poitrine. Je pense à cet instant fugace, à nos vulnérabilités qui frémissent, à cette faille toujours possible. Parce que je t'aime.
Non, non, c'est pas fini. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Le final, c'était un tour d'horizon du décor. En fait, cette vidéo a été réalisée dans le grand hall de l'Université Rennes 2. C'est un des lieux les plus laids de l'université. Et c'était très intéressant de voir comment elles avaient incrusté leur performance à l'intérieur, justement, d'un espace public, intime, complètement reconfiguré par la parole poétique. Donc je crois que dans cet exemple, la mise en voix n'est pas une illustration redondante du texte, mais une mise en mouvement de la question des signes, de la communication et de l'écoute dans le cas d'un espace public intime, ordinaire. En conclusion, développer les lectures créatives n'est pas une fantaisie pédagogique de plus. Nous le savons, c'est une nécessité. Or, la notion de lecture créative n'est pas un label valorisant que l'on peut accorder à une pratique, un enseignant ou un projet plutôt que d'autres. Cette notion n'est pas non plus réservée à une catégorie d'œuvres poétiques. C'est de démarches globales qu'il s'agit, de confiance dans la capacité des élèves à tester le sens sans les cantonner à l'illustrer. Du moment où le poème est offert comme une aventure, un inconnu à explorer, un moment de langage, une chance d'événement, peut-être. Voilà.
Merci.